טוב, ערב טוב. תודה רבה. Encore une fois pour l'accueil au Beth Knesset, tous les organisateurs et tous ceux qui viennent écouter Be'ezrat Hashem avec toute modestie la parole de nos sages qui traitent des sujets les plus importants de notre vie, puisque le premier dialogue entre le créateur de ce monde et celui qui va être le porteur de la Neshama pour laquelle le monde a été créé, c'est-à-dire Israël, eh bien ce premier contact ne traite que d'un seul sujet, l'accès à la terre d'Israël. Ce qui nous interpelle, car il y a ici une priorité qu'on ne peut pas exclure de la Torah. Le but même de toute cette sortie d'Égypte que nous venons de lire hier, Shabbat, est justement lié à cette sortie d'Égypte qui a pour direction Tevi'emo vetita'emo behar nachalatra. C'est ce que Moshe et les enfants d'Israël disent en prophétie lors de la Shira. Cette Shira n'est pas une chanson préparée d'avant. On n'a pas distribué des feuilles. Les gens ne connaissaient pas le texte, ne connaissaient pas l'air, et pourtant, tous ont dit les mêmes paroles, avec la même intonation, dans le même rythme, et pas seulement ceux qui avaient une bouche ouverte. Nous disent les Chachamim dans la Gemara, « Afilu ubarim shebeme'e iman amru shira » Même les fœtus, dans le ventre des mamans, on dit ce chant en même temps que les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que ce n'est pas un chant issu de l'intelligence de l'homme, mais une prophétie. Et dans cette prophétie, la sortie d'Égypte est liée, intimement liée, à l'entrée en terre d'Israël, puisque c'est comme cela que se termine ce chant. Tevi emo vetita emo. Tu les amèneras sur la terre et tu les implanteras sur la terre. Netia, tubishvat, plantation. Et c'est pourquoi la paracha de Veshalach est toujours en même temps que tubishvat. C'est une règle. Il y a donc une sortie d'Égypte et une entrée, et pas seulement une entrée, mais une implantation, pas de fruits, mais des hommes. Dieu va implanter l'homme et la femme d'Israël sur cette terre, et vi emo vetita emo behar nachalatra, machon le shivtecha, paalta Hashem, mikdash Hashem konenu yadecha, immédiatement, référence au Beth Amikdash aussi, par rapport à ce mouvement de sortie d'Égypte et de retour en terre d'Israël. Ce qui nous place face à un sujet donc primordial dans le judaïsme, sans lequel l'un des trépieds sur lequel le monde repose est boiteux. En effet, Abraham Avinu, qui nous a laissé un livre de Kabbalah énorme, qui s'appelle Sefer HaYetzirah, nous parle de trois sujets principaux qu'il faut toujours développer dans notre vie lorsqu'on traite n'importe quel sujet. Vous voulez développer une notion quelconque, par exemple le Shabbat, vous devez parler, pour que ce sujet soit traité convenablement et complètement, de trois notions. Le temps, l'espace, et les identités. Je veux dire par là que si par exemple je traite du sujet du Shabbat, sachez que le Shabbat n'est pas seulement un temps. Il y a en effet le Shabbat du temps, mais il faut chercher aussi le Shabbat de l'espace, il existe, et il faut aussi chercher le Shabbat de l'identité humaine. Et si je ne sais pas trouver le Shabbat dans ces trois degrés, eh bien, j'ai un Shabbat du temps qui a négligé ou oublié volontairement ou involontairement le Shabbat du temps et de l'être. Et de l'espace, pardon. C'est pour cela que la plus grande des nouveautés des 100 dernières années dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'accès du troisième élément qui nous manquait, l'espace. Nous étions pendant 2000 ans dans un judaïsme de temps et d'identité. C'est-à-dire qu'on n'avait rien d'autre à faire en exil que de traiter de ces deux notions, de temps et d'identité, parce que nous n'avions pas de terre. Donc on ne pouvait pas réellement accéder à ce troisième élément qui clôture ce triangle nécessaire, puisque le peuple d'Israël s'appelle dans la Gemara, traité de Shabbat 85, Am Telitaï, le peuple triangulaire. Car justement, nous devons traiter chaque sujet au niveau du temps, de l'espace et des identités que nous sommes. Je ne parle pas seulement de sujets de Kodesh à proprement dit, mais dans vos métiers. Quand vous voulez développer un sujet quelconque, toucher ces trois pôles, vous allez réussir beaucoup plus que ceux qui ne comprennent pas en réalité l'entité de ces valeurs. Ces trois pôles du temps, de l'espace et de l'homme s'appellent en hébreu Olam, Shana et Nefesh. Olam, c'est une notion d'espace. Shana, c'est une notion de temps. Et Nefesh, c'est une notion d'identité. Les initiales de ces trois mots, c'est Ashan, la fumée. Comme la Torah dit par exemple, Vehar Sinai Ashan Kullo. Le mont Sinai, c'est Ashan. Ceux qui ne comprennent pas traduisent par fumée, car Ashan veut dire fumée. Mais en réalité, vous comprenez qu'il s'agit là d'un code beaucoup plus profond que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, il nous donne la Torah sous forme d'un triangle, c'est-à-dire que la forme géométrique correspondante à la Torah divine lorsqu'elle arrive sur Terre, c'est un triangle. Et c'est pour ça que la Torah est faite d'une manière triangulaire, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tana. C'est pour ça que le peuple, donc l'identité, est fabriquée elle-même dans une manière, dans une forme triangulaire, Kohen, Lévi, Israël. Et c'est pour ça que le temps lui-même est mis en forme d'un triangle, Shacharit, Mincha, Arvit, initial du mot Shema. Le Shema que vous dites, Shema Israël, c'est Shacharit, Mincha, Arvit. Tout est triangulaire. L'homme qui a reçu la Torah, et le troisième qui termine un triangle, Myriam, Aaron, Moshe. Le temps où la Torah a été donnée, c'est le troisième mois après la sortie d'Égypte, qui est en réalité le premier mois. Achodesh Azelachem, Rishon, Vulechotcha Shana, donc Nissan, Yar, Sivan. Donc la Torah va être donnée troisième mois. Elle va être donnée le troisième jour. Heyu Nechonim Layom Ashelishi. Même trois jours avant, on dit que c'est encore un triangle. La construction de notre être est aussi triangulaire puisque nous avons Shlosha Prakim dans notre corps et je pourrais continuer jusqu'à demain. Ce triangle est le secret de ce monde. C'est en réalité la droiture divine qui nous fait avancer dans le cercle de la nature. La nature, c'est un grand cercle, c'est une roue, c'est le temps, teva, tabat, une bague, c'est la même racine, et la droiture qui pénètre à l'intérieur de ce cercle et qui donne une direction à ce cercle, qui rend ce cercle une spirale, qui a un sens, qui a un but, c'est justement ce triangle-là. Étant donné que nous venons de sortir de Tu Bishvat, qui est en réalité, selon les sages de la Kabbalah, quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on comprend dans la Mishnah qui touche le jour de Tu Bishvat comme une notion de temps seulement concernant la dîme que nous devons donner de ce que nous avons récolté. Alors la date de Tu Bishvat fait la différenciation entre une année et une autre année. On n'a pas le droit de donner le maaser d'une année sur l'autre année. Sont venus le Hari HaKadosh et ses élèves pour nous expliquer qu'il s'agit là de quelque chose de beaucoup plus fort, qui corrige en réalité la faute du premier homme, la faute de la consommation. Et donc hier soir et toute la journée d'aujourd'hui, la consommation des fruits n'était pas anodine, elle était là pour nous aider en fait à corriger ce que nous consommons dans notre vie. Pas seulement en tant que fruits ou légumes, mais en tant que notion, en tant qu'étude, en tant que vision des choses, en tant qu'espace, et bien entendu en tant que nourriture dans un espace et dans un temps donné. À tel point que lorsque vous mangez le Shabbat, vous ne mangez pas un plat de Shabbat, vous mangez Shabbat, sous la forme d'un plat. Et ceux qui ne comprennent pas cela pensent qu'ils ont fait une séouda de Shabbat. Alors qu'en hébreu, les choses sont claires, mais il faut parler l'hébreu. Pas séouda shel Shabbat, mais séouda Shabbat. C'est le Shabbat que tu manges. Donc c'est intérioriser la notion profonde de chaque élément que je rencontre dans ma vie, sous la forme d'une intériorisation de la chose. Alors il faut que je prenne conscience en réalité du monde dans lequel je suis, et le bébé, le fœtus dans le ventre de sa mère, bien son monde se limite aux parois du ventre de la maman. Donc en réalité son espace est limité à ses parois. Mais il a un liquide entre lui et cette paroi, ce qui lui donne déjà une préparation à ce qui va se passer lorsqu'il sortira dans ce monde et il aura contact avec des hommes, et là la paroi va devenir beaucoup plus grande, elle va être aux mesures de l'univers. Et lorsque nous quittons ce monde pour l'autre monde, nous rentrons encore dans un autre ventre, dans une autre matrice, où les parois sont encore différentes, mais c'est toujours le même système qui revient. Pourquoi je vous raconte tout ça? Bien tout simplement parce que je vais vous raconter une Gemara avant d'introduire notre texte. La Gemara dans le traité de Brachot, vous ne l'avez pas chez vous dans votre texte, à la page 41, nous raconte une histoire. Rav Chisda et Rav Hamnuna havei yatve bisoudata. Rav Chisda et Rav Hamnuna étaient assis pour manger. D'ailleurs en hébreu, en araméen, la consommation se dit aussi la table, donc la nourriture, se'ouda, qui veut dire, vous commencez à vous méfier, hein. Se'ouda, ce n'est pas un repas. Ça vient du mot sa'ad en hébreu qui veut dire une aide. Lishkata sa'ad. Adam si'udi. Quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Donc, se'ouda, c'est une aide. Une aide à quoi? Eh bien, à manifester, à rendre palpable et réel des notions spirituelles. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose de très haut, vous devez avoir un repas en même temps. Et c'est pourquoi chaque fête que nous faisons dans notre vie, que ce soit une naissance, que ce soit une bar mitzvah, une bat mitzvah, une brit mila, un mariage, peu importe, il y a toujours un repas, Shabbat, les fêtes. Pourquoi? Parce que ce repas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la consommation, c'est l'aide pour habiller la notion en question dans un plat que vous allez réellement injecté dans votre sang, c'est-à-dire dans votre vie. Donc ces deux sages étaient assis pour avoir une aide spirituelle qu'on appelle un repas. Aïtou les kamayou tamre verimone. Et voilà que devant eux, il y avait des smarim, des dattes et des grenades. Chakal Rav Hamnouna. Rav Hamnouna s'est posé la question, il a regardé ces deux fruits. Barech atmare beresha, il s'est dit, il faut que je fasse la bénédiction des dattes avant de faire la bénédiction des grenades. Ok. Amar le Rafrizda, donc son ami lui dit, la savar le mar le ha de amar Rav Yosef ve itemar Rav Yitzchak kol hamukdam bapasuk ze mukdam livracha. Je comprends pas, Rav Hamnouna, comment est-ce que tu fais passer la date avant la grenade? Tu ne penses pas comme Rav Yosef qui nous a donné une règle de vie. Quelle est cette règle? Alors pour connaître cette règle, il faut connaître le verset dans le livre de Devarim qui parle de l'entrée en terre d'Israël. Et dans le livre de Devarim, au chapitre 8, verset 8, nous avons un rythme. Le verset, vous le connaissez tous. Eret, Rita, Useora, Vegefen, Teena, Verimon, Eret, Zeitchemen, Udvash. C'est en réalité les sept sortes de fruits de la terre d'Israël. Et la règle nous dit que tout ce qui est proche de ce terme Eret, eh bien c'est sur lui qu'on va bénir en premier. Par exemple, Eret, Rita. Après le mot Eret, j'ai le mot Chita qui veut dire le blé. Donc c'est sur le blé que je vais bénir en premier. Après le blé vient Tseora, l'orge. Après il y a Gefen, le vin, les raisins. Seulement il y a un problème. Dans ce même verset, il y a deux fois le mot Eret. Donc, voilà le judaïsme qui rentre, toujours des combinaison un petit peu plus compliquée que la première version des choses. S'il y avait une seule fois Eret, c'est facile. Mais il y a Eret, Rita, Tseora, Gefen, Teena, Verimon, Eret, Zeichemen ou Dvash. Alors tu m'as mis, avec le premier Eret, cinq aliments proches du premier mot Eret, et tu m'as mis encore deux aliments. Avec le deuxième Eret. Alors comment on fait? Eh bien c'est très facile. Au niveau comptabilité, on va faire les deux premiers en premier, parce que c'est le premier Eret. On ne va pas passer au troisième. On va aller au premier du deuxième Eret, et au deuxième du deuxième Eret. Puis après, on va prendre le troisième, quatrième et cinquième. Vous avez compris? Pas? T'as pas compris, Richard? Je refais. On prend en compte les deux mots Eret. Avant, après le premier Eret, il y a cinq fruits. Après le deuxième Eret, il y a deux fruits. Donc tu prends les deux premiers qui correspondent à Eret, mais comme tu as encore deux et qui correspondent à Eret, lui, il y a déjà un troisième qui s'est éloigné de Eret. Et il est seulement deuxième par rapport au deuxième Eret. Regardez les discussions de nos sages dans la Gemara. C'est des prises de tête. Mais en réalité, c'est beaucoup plus fort que ça, Rabotai. Regardez ce que le Rav Kook, Alav HaShalom, nous dit sur cette Gemara. Et d'ailleurs, voilà la réponse dans la Gemara elle-même. Amar le, kol amukdam bapasuk, kodem la bracha. Tout ce qui est collé au début de ce verset est prioritaire pour la bénédiction. Qu'est-ce que lui a répondu son ami? Ze sheni le eret, ve ze chamishi le eret. Un est cinquième par rapport au premier eret, et l'autre il est deuxième par rapport au deuxième eret. Vous êtes avec moi? Lui répond son copain, man yahev lan nigre de parzela venashmi ancha. Que Akadosh Baruch Hu nous donne des pieds en fer, en métal, pour qu'on soit stable et qu'on continue à entendre tes paroles de Torah. Ça veut dire que tu viens de me donner ici une stabilité énorme. C'est un chidouche mondial que tu viens de me donner. Quel est ce chidouche? Eh bien, le Rav Kook nous dit, et après, juste ce petit clin d'œil à tout Bishvat, on reprend notre cours, mais en réalité, nous y sommes, nous sommes dans le thème. Kol ha-karov, karov yoter le-eres. Nous dit le Rav, dans son explication de la Gemara, dans un livre qui s'appelle En Aya. Quiconque est plus proche de la terminologie Eret, eh bien il est prioritaire pour la bénédiction. Mais le Rav Kook ne parle pas au niveau technique. Il dit Mi sheyesh lo yoter ahava le Eret Israël. Si tu es proche, pas seulement au niveau du texte, du mot Eret, mais dans ton cœur, dans ta tête, dans tes paroles, si à chaque fois que tu donnes un cours, il y a une proximité avec la terre d'Israël, et que tu aimes cette terre, et tu es proche de cette terre, et tu fais tout pour venir habiter ici. Arsenu Akdosha, ou Mukdam Livracha, sachez que devant Dieu, il est prioritaire pour recevoir les bénédictions du ciel. Extraordinaire. Vous comprenez que d'une Gemara qui est apparemment technique, on est passé à un autre degré, à une autre plateforme. Il y a ici une proximité au niveau de ce que je suis, de mon être, à la notion de la terre d'Israël. Et de la même manière qu'au niveau technique, si je suis proche du mot Eret, eh bien je suis prioritaire à la bénédiction. Si je suis proche dans mon être tout entier de ma terre, je suis prioritaire dans ce qu'on appelle la bracha. Alors je vous ai un petit peu induit en erreur en vous disant de la bénédiction. Mais bracha c'est beaucoup plus que cela. Bracha en hébreu c'est un lien. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus proche du lien avec les valeurs de l'infini. De là est sortie la notion de berer, comme barer. Bénédiction veut dire genou. Le genou, c'est le lien entre le je et le nous. Ça veut dire que c'est le lien entre deux degrés. Donc la bracha, en hébreu, les havrich, c'est prendre une plante, la rentrer dans la terre pour qu'elle donne des pousses, comme on fait avec le raisin. Eh bien, ceux qui sont proches de la terre sont premiers dans cette notion de lien. Ve'ukarov yoter el hashlemut, termine le Rav, et il est beaucoup plus proche que les autres de l'entité, de l'entièreté. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que nous sommes là pour nous remplir de ces valeurs de l'infini, pour les transmettre. Nous sommes des receveurs qui donnons. Eh bien, pour recevoir réellement, il faut être à l'endroit où le robinet coule. Et où le robinet coule, c'est la terre d'Israël, car c'est le premier lieu géographique, physique, matériel, par lequel la matière, première matière, est apparue dans ce monde. Donc les sages nous disent que l'idée Eretz Israël, plus tu en es proche, plus ta Torah est beaucoup plus forte, parce que tu es relié. Donc la conclusion de nos raves dans la Gemara, de tous les rabbanim, en Torah que Torah Eretz Israël, il ne peut pas y avoir une Torah aussi forte que la Torah de la terre d'Israël. Attention, hein, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas la Torah que tu étudies sur la terre. Ce n'est pas ce que la Gemara dit, vous savez que j'aime la précision. En Torah que Torah Eretz Israël, c'est la Torah de la terre. La terre a une Torah, a un enseignement à nous donner. Parce que jusqu'à l'entrée en terre d'Israël, d'où venait la Torah ? Du ciel. Donc Akadosh Baruch Hu nous fait un deuxième matin de Torah, que beaucoup de gens ont zappé, je ne sais pas pourquoi. Ça se passe à Shrem. Et là-bas, la Torah ne vient plus du ciel, elle vient de la terre. Extraordinaire. Et il y a ici donc quelque chose qui se complète, encore une fois, deux triangles qui vont se marier. Un triangle évasé vers le haut, celui de l'infini qui vient vers nous, et un triangle évasé vers le bas, celui de la terre qui elle aussi est infinie. et qui monte vers le haut. Donc la Torah va traiter en réalité deux directions de pensée au niveau de la Torah. Ce que les kabbalistes vont appeler Or Yashar ve Or Roser. La lumière droite et la lumière retournante. Et ces deux en réalité, avec des terminologies beaucoup plus simples, ce n'est que de la lumière infinie et des ustensiles pour contenir cette lumière. Voilà, Rabotai, comment il faut comprendre tout Bishvat, tout doucement, pour nous rapprocher, en fait, de la quintessence que nous devons retirer à Pessah, pendant le Seder de Pessah qui va venir. Quel rapport ? Mais tout simplement, nous sommes dans ce monde pour déceler les éléments de lumière qui se trouvent dans la nature, comme je viens de le dire. Je vous rappelle qu'au niveau de la prophétie, il n'y a pas de fin des temps aussi clair que lorsque la terre d'Israël donnera des fruits avec abondance. Pas lorsqu'il y aura plus d'études, pas lorsqu'il y aura plus de yeshivot. Je sais qu'on aime entendre ça, mais la Gemara est claire, Rabotai, il ne faut pas mentir. En lecha ket megoulé mise, tu n'as pas de fin des temps aussi clair que chez Eretz Israël nofenet perotea be'ayin yafa. Lorsque la terre d'Israël donnera des fruits avec un bon œil, c'est-à-dire avec une largesse. C'est incroyable, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Pour vous prouver que les fruits de la terre ne sont pas déconnectés de quoi ? De la Torah, justement, de la yeshiva. Parce que si au marché tu n'as pas de beaux fruits et en abondance, ça veut dire que ta Torah ne porte pas ses fruits. Or, nous sommes dans un lien total avec l'entièreté de la vie, comme dit le Ramchal, qui en réalité la Torah de l'unicité, de l'unité de toutes les forces. Et si j'ai un problème à la fin de mon équation, c'est qu'au milieu, il y a eu une erreur, on est d'accord. Donc on est obligé qu'à la fin, ce soit aussi beau. Comme vous le dit dans la tfila, Emet, Veyatif, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneeman, Veahou, Vechavi, Venechmaz, Venaim, Vetom, Veyafé. Si ce n'est pas beau à la fin, il y a un problème au début. Donc ça doit être aussi beau ce que tu fais. Donc la terre et les fruits de la terre, c'est en réalité les fruits de nos actions. Donc tu peux voir si Akadosh Baruch Hu est bel et bien présent dans la Géoula du peuple d'Israël, tout simplement en allant au marché. Un petit. Tu vas au marché, tu vois l'abondance, tu te dis c'est la Géoula. Et plus ça va être goûteux, plus ça va être bon, plus ça va être beau, plus ça va être en abondance, plus la Géoula est en train de se mettre en place. Alors, pourquoi tout ça ? Mais tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que Akadosh Baruch Hu aime sa création. Et en aimant sa création, il aime ceux qui deviennent le lien avec sa création. Et donc, nous avons été choisis pour faire le lien. Baruch, si tu es proche de la terre d'Israël, par laquelle ce flux de l'infini passe, eh bien tu deviens un bon canal. Et donc, c'est par toi que l'infini va passer toutes ces notions, celle qu'il a choisi de faire passer. Et donc, toi, tu véhicules tout ceci, et ça ne va pas s'arrêter, bien entendu, aux frontières de la terre d'Israël. Ça va sortir pour être diffusé dans le monde entier, vers toutes les nations du monde, que nous aimons, que nous devons aimer, que nous ne devons pas négliger Chas v'Shalom. Donc, le peuple d'Israël ne s'occupe pas seulement de son propre degré, mais doit s'occuper de ce que la Torah nous demande. C'est Dieu qui nous demande dans la Torah, dans la paracha, qu'on vient de lire en même temps, ce Shabbat. Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Je vous demande pas que vous me reconnaissiez, vous, les Juifs, les enfants d'Israël. Je veux que cette connaissance arrive où ? En Égypte. En Égypte, c'est le degré le plus bas qui puisse exister dans ce monde. Il n'y a pas plus bas que l'Égypte. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire clairement, tant que je ne suis pas connu et reconnu dans les plus profonds degrés de ce monde, vous n'avez pas encore fini votre travail. Alors maintenant, on reprend notre texte. Et nous avons vu qu'en réalité, on ne peut pas traiter de la terre d'Israël avec des notions superficielles, ni cartésiennes, ni rationnelles humaines, si ce n'est que avec le souffle de Dieu qui est sur l'entité du peuple d'Israël, de la nation d'Israël plus exactement. Alors maintenant, je vais reprendre en bas, « Ruach Hashem Asher ala Uma Bichlala », c'est au milieu. Ruach Hashem Asher ala Uma Bichlala, voilà la terminologie du Rav. Comment comprendre la terre d'Israël? Seulement par Ruach Hashem, le souffle divin, Asher ala Uma Bichlala, qui s'épanche sur la nation tout entière. Autrement dit, pas au niveau individuel. Tu n'arriveras pas à arriver très loin. Tu vas être limité. Tant que ta Torah est une Torah individuelle, fais comme ça, ne fais pas comme ça, tu vas fauter, tu vas pas avoir ton olam haba, tu machin, et tu es encore très 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 sclérosé. Tant que tu n'as pas compris que ta Torah est une Torah de la nation tout entière qui, elle, a été choisie pour traduire les valeurs de l'infini dans ce monde, et pas des juifs individuellement parlant, eh bien tu ne peux pas réellement avancer. Encore plus pour connaître les secrets de ce monde, et notamment lorsqu'on parle de la terre d'Israël, qui, vous l'avez bien compris, et vous allez le comprendre de plus en plus, n'est pas un élément superficiel, n'est pas un élément qui sert de moyen, mais très profond, c'est un but en soi, il faut qu'on le comprenne. Be'atba'at ivit aruchanit asher benishmat Israël. Donc tout ceci, ça s'appelle hatba'a aruchanit ivit. On l'a déjà un petit peu amorcé la fois dernière, c'est-à-dire la nature profonde, intrinsèque, la capacité de base du peuple d'Israël. Pas au niveau de son corps seulement, mais de sa neshama. Hayesod amiyuchad le'am Israël be'eretz Israël mitbaseh be'kosher hanevuah. Tout ce que le Rav vient de nous dire ici, c'est en réalité la prophétie. Notre but, et je vous l'ai déjà dit et je le répète, ce n'est pas grave, mon Rav a toujours l'habitude de me dire quand on a quelque chose à dire, alors on le répète souvent. Parce qu'il y a un message très clair. Il faut qu'on redevienne ce que nous sommes. Et nous sommes prophètes. Prophètes, ce n'est pas ceux qui voient demain. C'est ceux qui arrivent à voir une entité pour faire les liens entre les causes et les effets. C'est ça un prophète. Et qui a, en réalité, le flux de l'infini, pas qui s'invente des voies, qui passe par lui pour donner des notions réelles et objectives, pas subjectives à la personne elle-même. Et ça, c'est la terre d'Israël. D'où est-ce qu'on sait que la terre d'Israël est la terre de la prophétie? Le Kuzari nous dit, tout simplement, qu'aux frontières de la terre d'Israël, on peut recevoir la prophétie, pas à l'extérieur. Même pour prier à Kadosh Baruch Hu, je vous rappelle que Moshe n'a jamais prié en Égypte. Chaque fois que Moshe élève ses mains pour prier Dieu, il y a marqué « Ve'haya ketseti etayir ». Je suis obligé de quitter l'Égypte. Donc Moshe faisait une sortie d'Égypte à chaque fois qu'il parlait à Dieu. Écoutez bien. En Eretz Israël. Quel c'est le Midrash? Non, pas du tout. Ve'aya ketseti ani etahir. Moshe est obligé de quitter. Etahir, ça veut dire tout le degré d'Égypte. Et les Chachamim nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire. On ne peut pas en réalité prier en dehors de la terre d'Israël, car nous avons un texte qui nous dit le prophète Ve'it palelu elai derech arzam. Vous prierez seulement à travers ma terre. Mais son dévoilement n'est pas partout de la même intensité. C'est vrai qu'il est partout. On ne parle pas de Dieu, on parle de ce que nous recevons. C'est sûr que Dieu, il est en Angleterre, à Paris, à New York. Mais
tout ce que j'ai prié à Paris, c'est partout.
Non, j'ai pas dit ça. C'est pas la même intensité. C'est pas la même force. Pourquoi, nous dit le Zohar, une explication, on l'accepte ou on l'accepte pas, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut arrêter de faire la Iloula, si ça ne vous convient plus. Il dit que quand on prie en dehors d'Eretz Israël, on est obligé de passer par un prince qui se trouve spirituel de la nation en question. Donc c'est de la Avodah Zara, tu es obligé de prendre un intermédiaire pour arriver à Dieu. C'est-à-dire, quand on prie en Eretz Israël, on prie directement le patron. Comme ça. Zohar Meforash. Si vous voulez la référence, je vous la donne. C'est la même chose. C'est pour ça qu'ils ne sont pas restés là-bas, et c'est pour ça que ce n'était pas le but, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les fait sortir d'Égypte. S'ils voulaient avoir un lien avec eux juste au niveau religieux, il y aurait eu jusqu'à aujourd'hui la communauté de Goshen. Ce n'est pas le but d'Akadosh Baruch Hu. De cette manière-là, Moshe entre, et d'ailleurs même au niveau du don de la Torah, le Kuzari Perekhe nous dit que Matan Torah, c'est Eretz Israël, le mont Sinaï fait partie d'une des frontières dites par la Torah en Eretz Israël. C'est vrai ? N'achot, à une des frontières, à l'une des frontières. N'achot. Il y a plusieurs frontières d'Eretz Israël, l'une d'entre elles est déjà, prend en compte déjà, okay, Rabbi Yehuda Halevi, on ne peut pas inventer des choses qui ne sont pas, et on ne peut pas dire, je ne peux pas me permettre de dire des choses qui ne sont pas. Je dis des choses qui sont que vous pouvez lire. Vous avez tous les mêmes livres. On a tous les mêmes imprimeurs, les mêmes livres. D'accord ? Ça veut dire que Moshe, dans une des frontières mises dans la Torah, est lui aussi à accéder à ce degré-là. Pas dans la frontière en question que nous connaissons aujourd'hui. Donc, Eretz Israël, à tel point, je vais un petit peu plus loin, je me mets d'abord en tenue de combat, c'est que nous disent les Chachamim, comment est-ce que la Nebuah va revenir à la fin des temps? Eh bien, tout simplement, on va savoir les vraies frontières de la terre d'Israël. Vous savez comment? Tout simplement, le prochain prophète qui va apparaître, Eliyahu Hanavi, va aller et va marcher. Je prophétise, je ne prophétise plus. Voilà la frontière. Il va tracer la frontière. Mieux que ça, vous ne pouvez pas avoir. C'est comme ça que ça va être fixé. Ça veut dire qu'en terre d'Israël, on prophétise, donc la ligne verte, la vraie, va être décidée par une prophétie là où je prophétise, où je reçois ce flux, et là où je ne le reçois pas. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu grossiers, donc on ne peut pas, nous, déceler ça, mais ceux qui sont à ce degré-là, on ne peut pas s'inventer, dire quoi que ce soit, si on n'est pas vraiment prophète, je vous l'ai dit tout à l'heure, auquel cas on est enfermé dans des hôpitaux sourds. Mais le vrai prochain prophète va décider des frontières de la terre d'Israël telles qu'elles sont réellement, par ce biais-là. Je continue. Eretz Israël, donc, hi Eretz Anevoa. La terre d'Israël, c'est donc la terre de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire prophétie? Traduction des valeurs de Dieu dans ce monde. Donc, on n'est plus subjectif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le prophète, il est conscient lui-même et qu'il reste tel quel, c'est pas un prophète, il parle de sa tête, il parle de sa pensée, il rajoute des paroles de lui-même. Ça, c'est plus de la Torah, c'est de la subjectivité, ça je ne reçois pas. C'est-à-dire, si vous me dites, Chas v'Shalom, que Moshe Rabbeinu est un homme très 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 sage, et qui m'a donné la Torah, je jette ma kippa. Ça ne m'intéresse pas. Si la Torah ne vient pas de l'infini béni soit-il, je n'ai pas à obéir à la parole d'un homme. Il faut que ce soit objectivement. Donc, Moshe Rabbeinu va passer un test. Et c'est les enfants d'Israël qui vont le mettre en test. Les enfants d'Israël vont dire à Kadosh Baruch Hu, Daber ata imanu. Ve'al yedaber Moshe. On ne veut plus entendre Moshe. On veut savoir si c'est vraiment toi qui parles. Parce que Moshe, ça peut être quelqu'un de très très fort. Il peut nous embrouiller. Et Moshe va se plaindre à Dieu, ils ne veulent pas m'écouter, et Akadosh Baruch Hu va lui dire, ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas objectif, vous n'avez rien à obéir. Et donc, Ine anochi ba'elecha, c'est moi maintenant qui vais descendre, be'ave anan, je veux m'habiller dans une nuée, ve'shamu ba. Des colibes d'Aberi Imach, et maintenant ils vont entendre quand moi je te parle. Ou Vechaya Aminu, Vegam Vechaya Aminu, textuellement. Et ils auront aussi une Emouna en toi. Et ils ont raison de mettre. Eh, les Juifs ne mangent pas facilement tout ce qu'on leur dit, la preuve. C'est bien. Il faut garder son esprit critique, c'est très important. Donc, Eretz Israël, il y a Eretz Anegoua. Eretz Akishur, Ben Dvar Hashem ou Ben Kol Ma'archot Abria. Donc, c'est le lien entre l'absolu béni soit-il, donc l'objectivité par excellence, et tous les fonctionnements de ce monde. Nikud Ashuru Kashur Les Svirat Ayesod, donc Kishur, selon la Kabbalah, quand il y a des mots avec, comment on dit Nikud, les voyelles, la ponctuation de Shuruk. Shuruk, c'est comme un vase avec un point sur le côté gauche. Vous connaissez? Eh bien, ce Shuruk-là, quand vous avez par exemple le nom de Dieu, parfois vous avez un nom de Dieu qui est un petit peu compliqué. Vous voyez le Yud Kevavke, mais après chaque lettre, vous voyez un vase et un point. Un vase, un point. Un vase, un point. Un vase, un point. Ça fait bizarre un petit peu. Mais à chaque fois que vous voyez le nom de Dieu comme ça, c'est ce qu'on appelle Shuruk, c'est-à-dire Kesher. C'est la Sphira de Yosef HaTzadik qui fait le lien. Donc en réalité, Yosef HaTzadik en tant qu'homme, je vous ai dit tout à l'heure que chaque fois qu'on développe un sujet, il faut le trouver au niveau des identités, au niveau de l'espace, au niveau du temps. Eh bien, au niveau de l'identité, c'est Yosef. Au niveau de la ponctuation, c'est le Shuruk. Au niveau des jours de la semaine, c'est le vendredi. Et encore d'autres choses. C'est-à-dire Amekasheret bena elyonim ou bena tartonim. Donc en réalité, nous sommes dans un lien entre les mondes, et ce lien est très important, et il se fait en terre d'Israël. Maintenant, je reprends le Rav Harla pour expliquer ce que c'est qu'en réalité cette prophétie. Dans Meimarom, Perekbet, Eretz Israël, Shebachazon, Aniglet, La'ain. Regardez, c'est très sain, il va nous dire, je ne vous parle pas de quelque chose que vous ne pouvez pas voir, je vous parle de quelque chose que vous voyez. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu ne nous embrouille jamais. Il ne nous dit pas au don de la Torah, je suis l'éternel créateur du ciel et de la terre. Parce qu'il y aurait eu sûrement un de cette assemblée qui lui aurait dit, d'où on sait. On n'était pas là. C'est gentil. Tu nous racontes n'importe quoi. Et il aurait raison. Et donc Akadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'il se présente? Je suis l'éternel qui vient de te faire sortir d'Égypte il y a 50 jours. Je peux continuer? Oui. J'étais témoin. Vous comprenez? C'est-à-dire, sur la carte d'identité d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas marqué créateur du monde. Il y a marqué celui qui fait sortir d'Égypte. Extraordinaire. Je ne peux pas m'avancer à vous dire des choses que vous ne voyez pas. Donc la Torah est saine. Elle te parle de choses concrètes. Kol mi sheruah chassod ofefetoto. Vous allez comprendre ultérieurement pourquoi j'introduis ce passage du Rav Harla, parce qu'il parle maintenant de la Torah des secrets. Est-ce que je vous ai déjà dit que la notion de sod en hébreu veut dire entité? Oui ou non? Alors rappelez-vous, le mot sod ne veut pas dire secret seulement, il veut dire secret, mais dans le véritable sens du secret. Donc qu'est-ce que c'est que le secret? L'entier, tout ce qui est entier. C'est-à-dire, n'est secret que ce qui est entier. Sinon, ce n'est pas secret. Sinon, c'est fractal. Et ce qui est fractal est déjà, de par nature, manquant. Donc, par exemple, quand vous vous décrivez juif, Yehudi, c'est fractal. Parce que c'est comme si vous étiez venu d'une seule tribu, Yehuda. Donc, Yehudi. C'est pour ça que j'évite ce terme. Et je dis toujours Israël. Tu es Israël. On ne sait pas de quelle tribu tu viens. Si tu dis que tu es Yehudi, tu viens que de Yehuda. Quand on parle de Mordechai dans Megillat Esther, on dit Ish Yehudi, tout simplement parce qu'il venait de la tribu de Yehuda. C'est tout. Moi non. Je parle au niveau de toutes les tribus. Okay. Donc, on fait fait toto. Donc tous ceux qui ont en eux le souffle de ce secret. Donc en réalité la prise de conscience, il s'agit ici d'une Torah unitaire qui ne laisse rien en dehors. Alors, il n'y a pas ni un espace, je reviens encore aux 3 degrés, ni un temps, ni une identité qui est vide de l'infini. On est d'accord? Celui qui connaît la Torah des secrets, en tout cas qui étudie la Torah des secrets, c'est ce qu'il étudie. il devient de plus en plus conscient de ce quoi ? De cette entité, du fait qu'il n'y a pas un degré, un recoin, un tiroir manquant de l'infini. Ça veut dire qu'en réalité, l'infini est partout, mais il n'est pas dévoilé de la même manière partout. De la même manière que Dieu se trouve aussi dans la partie la plus sale de notre maison, mais il ne se dévoile pas là-bas, et il ne faut pas le dévoiler là-bas, il y a une interdiction même de dire shalom aux toilettes ou au mikvé, pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Or, vous allez me dire que dans le mikvé, Dieu n'est pas, il est. Mais je n'ai pas le droit de le développer et de le dévoiler dans cet endroit. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle la face cachée de l'univers. En hébreu et dans la Kabbalah, Achoraim. Et nous, notre lien avec Akadosh Baruch Hu doit se faire panim el panim, face à face. Ne va pas chercher ce qu'ont fait les gens qui faisaient de la Avodah Zara, qui faisaient leurs excréments et qui priaient leurs excréments en disant « Voilà, Dieu est là ». Ils avaient raison, mais on n'a pas le droit de le faire. C'est exactement ça, ça veut dire « Tu ne comprendras pas avant, tu comprendras après ». Toi, tu as traduit « Achorai » comme « mon sens degré ». Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Tu les vois. C'est le nœud de l'après-coup. C'est pas de l'avant. C'est-à-dire, on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer. On voit les choses. Une fois qu'elles se sont passées, on comprend rétroactivement le film. Malheureusement, on n'arrive pas à comprendre les choses. Donc, « Veraita est acharé, velo est lifné ». Donc, « panim » et « achor », c'est « lifné » et « achré » aussi. D'accord ? Donc en hébreu, comme en français d'ailleurs, avant, ça peut être avant et avant, on est d'accord ? Je vais en avant, alors tu vas en avant. C'est la même chose en hébreu. Kadima, c'est kodem. Alors si t'es kadima et t'es kodem, eh bien c'est acharai et lefanai, avant et après. Ça veut dire vous dans ce monde, pour clôturer un petit peu, vous voyez les choses quand ces choses-là sont dévoilées, pas avant. Autrement dit, quand elles sont habillées dans un corps. Si les choses ne sont pas habillées dans un corps, je ne vous demande pas d'aller les chercher. Et au contraire, vous allez fauter si vous n'habillez pas votre Torah dans un corps, vous êtes fauteur. D'où l'importance de faire descendre la Torah sur la terre d'Israël, qui est en réalité le corps qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour son dévoilement. Et ne restez pas dans l'esprit. C'est la faute des explorateurs. Ils sont restés dans l'esprit, qui n'ont pas habillé ces notions-là en voulant éviter de rentrer sur la terre d'Israël. Qui est beaucoup plus grave comme faute, que vous le sachiez, des explorateurs, que la faute du Vaudor. Aucun rapport, hein. Les gens pensent que la faute du Vaudor, c'était waouh. Rien à voir. La faute des explorateurs, c'est la faute la plus grave qu'il y ait jamais eue. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas compris l'importance de la terre d'Israël. Et tu as l'impression que la Torah, tu pouvais la faire dans le désert. Et je veux pas vous faire mal, mais le désert veut dire tous les pays du monde. Mais voilà, c'est ça le désert. Le désert des nations, ce qu'on appelle Midbar Ha'amim, c'est une expression même en hébreu. Donc la Torah doit se faire sur sa terre parce que c'est son lieu naturel choisi par l'infini béni soit-il. Beaucoup de gens n'étudient pas cette partie, donc pensent que la Torah c'est juste ouvrir des livres et comprendre des notions dans une Gemara, dans une Chavruta ou dans un Shiur. Faire attention à Rabotai. Il faut savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Ne pas se voiler et faire l'autruche et faire comme si je ne savais pas. Tu dois savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Elle achukim ve amishpatim asher tiva Adonai Eloheinu etchem la'asot ken bekereb ha'aretz. Toutes les mitzvot, les chukim, les mishpatim que je vous demande de les faire au sein de la terre d'Israël. Kol misheruach hasod ofefet oto merachefet alav. Donc tous ceux qui ont cette notion de secret qui les enveloppe, chash, il sent, il commence à sentir. Ou margish, encore plus fort. Benis gavot erka shel eretz Israël. Immédiatement, il va commencer à parler beaucoup plus de la terre d'Israël dans ses propos. Donc ici, nous avons une clé. Quand vous allez à un cours où on ne parle jamais de la terre d'Israël, vous pouvez être sûr que cette personne ne touche pas en réalité cette étude. C'est le à Gvil. Et maintenant, il va donner une comparaison. Qu'est-ce que c'est Gvil? Le parchemin. À Gvil, tu vois, Chelekanista. Quand tu ouvres un Sefer Torah, il y a une partie lettre, c'est-à-dire de l'encre noire, avec des formes, et il y a une partie blanche. Ron, qu'est-ce qu'il y a de plus? Du blanc ou des lettres? Du blanc. En plus de ça, le blanc est infini. C'est-à-dire, il sort, il est même sous les lettres, puisque tu as posé de l'encre sur le blanc. Donc en réalité, le blanc, c'est et le support, et le contour, à tel point qu'il n'y a pas de blanc entre deux lettres, le Sefer Torah est Fasoul. Donc moralité, je vais vous traduire ça avec mes mots, comme ça vous comprenez. Les lettres, en réalité, ce sont des vêtements noirs. Ce sont des vêtements. Les lettres, ce sont des vêtements. C'est de l'encre noire. Il faut qu'elle soit absolument noire et pas d'une autre couleur, parce que le noir, c'est le vêtement le plus fort, qui contient le plus de lumière. Et donc, les lettres sont des vêtements noirs sur un fond blanc. Et donc, avec mes termes à moi, j'ai attrapé, j'ai habillé quelques parcelles de l'infini. Vous êtes avec moi ? En dessinant une lettre, j'ai pris en réalité une parcelle de l'infini et je lui ai fait un vêtement. C'est tout. Sous la forme, ce vêtement, de la lettre que je viens de dessiner. Et ça aussi, ça a des secrets. C'est-à-dire que le vêtement va s'habiller en lettres. Et chaque lettre va me dire comment se trouve la lumière qui est à l'intérieur grâce à la forme de la lettre que je viens de dessiner. Par exemple, si je dessine un lamet, eh bien, je vais comprendre que il y a là-bas un écoulement d'infini sous la forme d'une longue descente, d'un certain palier, et encore une fois, une descente qui va aller jusqu'en bas. Et il faut comprendre qu'on soit en réalité le lamed, donc ça va me donner la notion de limoud. Donc l'enseignement, c'est quoi? C'est d'aller très haut et de descendre, d'arriver à un palier avec tes élèves et de descendre après jusqu'en bas au plus petit détail. Sinon, ça ne s'appelle pas du limoud. C'est pas un lamed. Et je peux vous faire la même chose avec les 22 lettres de l'alphabet, qui d'ailleurs vous les avez mangées hier sans vous rendre compte, en mangeant du blé. Les Chachamim nous disent Rita, Chestethe, on n'écrit pas Rita avec un Yud, c'est 22 en valeur numérique. Donc quand on a mangé la Rita, la première des bénédictions qu'on a fait à Tu Bishvat, on a mangé en réalité les 22 lettres de l'alphabet. Comme dirait mon ami, ça nous laisse quoi? Hein? Donc, le secret, maintenant on va considérer le blanc comme le secret, parce que c'est l'infini. Et la lettre noire comme la Torah dévoilée, c'est le vêtement. Qu'est-ce que je lis en réalité? Que ce qui a été habillé. On n'arrive pas à lire le blanc, on est d'accord? On ne lit que les lettres, même si le cerveau fait l'inverse, vous savez. Le cerveau, lui, lit le blanc. Et quand il voit les lettres, il voit même à l'envers, et il les remet en place comme vous les voyez. Mais peu importe maintenant. Ça veut dire que le cerveau fait un travail que vous n'avez même pas conscience qu'il fait, et vous lisez et le secret et le dévoilé simultanément. Comme quand vous regardez le nom de Dieu, tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, et vous dites en même temps, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adon. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'accoupler deux noms, puisque vous voyez un et vous dites un autre. Donc la vision se trouve à un degré, et la parole, l'expression se trouve à un autre degré. Extraordinaire. Donc, Maki feta otiot, shem achelek aniglé. Donc les lettres sont dévoilées, ce sont des vêtements, et le contour blanc de la Torah, c'est le secret de la Torah. C'est le silence. On va parler musique. Les notes sont des lettres. Les lettres sont des notes, et le blanc, c'est le silence entre les notes. On est d'accord que dans la musique, il y a autant d'importance, sinon plus, au silence qu'on met entre les sons, que les sons eux-mêmes. Sinon, c'est n'importe quoi. Mais c'est la même chose. Quand je parle, je suis obligé de m'arrêter. Je mets des moments de vide. Ces moments de vide-là, ils sont pleins de quoi ? D'infini, c'est l'infini, c'est le blanc, c'est le silence. Avant de commencer un concert, il y a un instant de silence. Il contient quoi, cet instant de silence ? Tout le concert. Et après que le concert soit terminé, il y a encore un moment de silence qui, en réalité, c'est toujours le même concert, mais sous une autre forme maintenant, dans le silence que tu es en train d'entendre. Et les Chachamim nous disent qu'un véritable sage, c'est pas celui qui entend les paroles de son Rav, mais qui est capable d'entendre ses silences. On est en train d'étudier des choses qui sont apparemment très dures à la logique. On vous l'a dit, le Rav Kook nous dit ce n'est pas une ascala rationalis enoshique. Si tu es d'accord pour mettre ton ego de côté et essayer de comprendre qu'il y a des choses qui te dépassent, tu peux accéder à cette connaissance, entre guillemets, de la terre d'Israël. À cette connexion-là. Si tu as du mal avec ça, si tu ne lâches pas prise, eh bien, tu vas prendre. Mais tu vas prendre que ce que ton corps et ta conscience sont capables de prendre. Donc, tu te limites toi-même. Donc, « Achel kaniglé » Vehu gadol, regardez ce qu'il dit, la partie donc blanche, harbe yoter ou le en shiur mina otiot asman. C'est beaucoup plus grand que les lettres. Ne croyez pas que nous étudions des lettres, nous étudions des blancs. Alors pourquoi tu as coloré en noir certaines parties de ce blanc? Ben parce que c'est ce que tu es capable d'entendre aujourd'hui. Déjà, les lettres, on a du mal à les comprendre. Parce que je viens de vous donner l'exemple du Lamed, mais il y a des livres entiers qui traitent des lettres, puisqu'en réalité, les lettres, c'est faire venir la lumière. Vous vous rappelez ? Otiot, en araméen, ata, faire venir. Ata. Alma de ate, le monde des lettres, qu'on traduit en français par Olam Abba, le monde futur. C'est le monde des lettres. Donc il y a un monde qui s'appelle le monde des lettres. Mais avant les lettres, il y a le blanc. Qui est avant les lettres. Et qui est après les lettres. Et qui sera toujours. Et les lettres que je viens de dire maintenant, elles sont effectivement réelles. Mais c'est qu'une partie de la vérité. Il arrivera un moment où je vais pouvoir lire quoi ? Le blanc. Ça, c'est déjà la Torah messianique. Donc je vous annonce que la Torah messianique, c'est la lecture du blanc qui va être entre les lettres, qui est déjà entre les lettres, nous n'arrivons pas à lire aujourd'hui. Vous pouvez voir un tout petit peu de ce blanc-là et de comprendre un petit peu dans la lettre P, en hébreu, P. À l'intérieur du P se cache en blanc un bet, quand il est écrit selon la Kabbalah. D'ailleurs, les musulmans n'arrivent pas à dire le P, ils disent B, pour chaque P. Ils ne vont pas dire Binyan, Po'el, ils vont dire Bo'el. Plastique, au lieu de plastique. D'accord ? Alors, il y a certaines lettres, si on arrive à lire le blanc, et il y a une lecture du blanc. Ça, c'est ce qui touche à la prophétie. C'est-à-dire, cette étude-là, du blanc qui est entre les textes, entre les lignes, d'ailleurs, ça se dit, non, en français, comme expression. Entre les lignes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a des choses que tu n'as pas dites, mais qui sont entendues, qui sont audibles, qui sont comprises. Eh bien, dans ces silences-là, vous devez, en réalité, mettre l'infini. Vekasher mitorerim belahat kodesh. Tournez la page. Quand on se réveille, eh bien, l'heure est déjà passée. Quand on se réveille belahat kodesh, avec une mazelahat, hein, une extase, une flamme, lohet, quel lahat, c'est comme une consumée. Lorsqu'on se consume en réalité, parce qu'on se consume, On ne peut pas éclairer le monde sans se consumer. C'est ce que fait la bougie d'ailleurs. C'est ce que fait l'huile. La mèche meurt pour éclairer le monde. Et donc il y a toujours un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu moins d'huile. Donc je meurs pour éclairer, c'est bizarre. Okay? C'est pas facile. Ça consume la personne, ça consomme la personne. Donc lorsqu'on est dans ce degré d'extase, la date ou la sigachelek ane'elam, pour arriver à comprendre et à atteindre cette partie cachée, amekoupal bagvil, qui est pliée dans le parchemin, dans le blanc que tu ne vois pas en réalité, tous les gens cherchent où commence le texte quand on fait la Akbah. Vous cherchez, et même vous regardez la lettre qui correspond à la première lettre de votre prénom. Pourquoi? Parce que, voilà, je suis là, et donc je suis Yoel, donc je cherche un Yud. Alors, c'est relativement facile à chercher, à trouver un Yud, mais à comprendre ce que c'est que le Yud, et à comprendre ce qu'il y a autour du Yud, ça c'est déjà un autre film. Donc, dit le sage ici, « Umalea ha'aret de'a et Hashem » Ça c'est la connaissance approfondie que la terre va se remplir de cette connexion du blanc, de ces silences-là, de ce mutisme, j'allais dire, qui en réalité est très très parlant. « Les Hashrot Ruach HaNevoah » C'est ça la prophétie. Donc la prophétie, elle se passe à l'intérieur de l'être. On n'entend pas Dieu parler à l'extérieur. Il n'y a pas de son comme vous pensez ou imaginez. C'est un son intérieur qui issu de ceux qui, tous ce degré, savent de quoi je parle. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Eh bien, c'est ce qu'on appelle Ruach HaNevoah. Al-Kol Ha'am Yoshev Betzion. Regardez ce qu'il est en train de dire. Que cet esprit-là de sainteté, de prophétie, Nevoah, va atteindre tous ceux qui habitent la terre d'Israël. Kol Yoshev Betzion. Ça veut dire qu'il arrivera un temps où nous arrivons à un degré d'atteindre cette connaissance du blanc, de ces silences-là, entre les textes. Je vais un petit peu plus loin. Aujourd'hui, ce qui nous gêne le plus, c'est les silences de Dieu à certaines époques de notre histoire. D'accord ? Eh bien, ces silences vont être compris. Parce que pour nous, nous avons décidé que ce sont des silences. Mais en réalité, Dieu n'est jamais silencieux, mais nous n'avons pas d'oreilles. Et c'est ce qu'on dit dans le Hallel. Oznaim laem velo ishmeu. Enaim laem velo yiru. Af laem velo yerichun. Mais quoi alors, tous nos sens sont dégradés? Oui, il y a un problème. Yedehem velo yemishun. Je ne peux même pas réellement toucher quelque chose, je n'ai pas la connaissance de ce que je touche. Il y a un problème, il faut guérir de ça. Kol ayin mizakechet. Et maintenant, le Rav va rentrer dans un mouvement de prophétie de ce qui va se passer. Chaque œil va se zach, zechuchit, va devenir transparent, comme un verre. Pur. Umit'ala va'afil umashene'ilam me'ene basar. Même ce qui n'est pas visible à nos yeux d'aujourd'hui va commencer à être visible. Le Hari HaKadosh nous dit qu'aujourd'hui, quand on fait une bracha, on ne voit rien. À la fin des temps, quand le Mashiach va venir, quand on va faire une bracha, on verra les étincelles qu'on a libérées de cet élément liquide. Et que Shabbat, on va voir les éléments monter, parce que Shabbat, on est dans un monde qui s'appelle la Silout. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est encore un jour comme un autre. Mais si on avait un tout petit peu plus de délicatesse, on devrait entendre que les oiseaux Shabbat chantent différemment. Qu'il y a un silence dans l'air qui est rempli d'énergie. C'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de voiture. Je vais plus loin. Tu es censé dormir 6 mois et te réveiller n'importe comment et de me dire quel jour on est et quelle date on est dans l'année. C'est comme ça. Ça, c'est une vraie connexion avec l'infini. Comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, il n'y avait ni Égypte, ni la sortie d'Égypte, ni le peuple d'Israël, ni la connaissance, ni rien du tout, ni Akadosh Baruch Hu, ni la Torah, rien. Et il savait quand est-ce que ça tombait Pessah. Et le soir de Pessah, il savait quelle nourriture il fallait manger des matzot. Et les sages nous posent la question, mais comment Pessah, il n'y avait pas Pessah, comment Abraham mangeait des matzot à Pessah, et il était assis dans le céder de Pessah, sans aucune histoire que vous connaissez vous, et il faisait son Pessah parce qu'il savait que dans l'univers, ce soir-là, il y avait une possibilité quoi ? De se libérer de n'importe quelle prison. Ce qu'on va appeler ultérieurement la sortie d'Égypte. Comprenez ? Vous, si ce n'est pas marqué dans le calendrier Toubichva dimanche soir, tu poses la question au moins 30 fois. C'est quand dimanche soir, c'est quand Toubichva, quand est-ce que ça tombe, quand est-ce que ça va me tomber dessus ? Voilà. Un morceau de viande, nous dit la Gemara, tu ne sais même pas d'où il vient, qui est censé le lever dans le désert. Maintenant, tu l'as trouvé dans la rue. Tu as très faim. Tu le regardes, tu le sens, kasher beddin. Ou bien ça reste. Tu devrais savoir ça. On ne sait pas ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'ité ou d'autres, même si c'est des photocopies, c'est pas grave. Vous comprenez comment on est loin de cette vérité ? Tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est la connaissance de la terre d'Israël. C'est la Torah de la terre. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a habillé sa Torah dans la terre et c'est la terre qui va donner ça. On appelle ça Emet Me'eret Titzmach. Ce n'est pas par hasard que le Mashiach s'appelle Tzemach, c'est-à-dire une plante qui va sortir d'où ? De la terre, pas du ciel. Inversement aux Goïm qui pensent que tout rédempteur, il descend du ciel, on ne sait pas pourquoi. Chez nous, le Mashiach, il vient de la terre. Et Tzemach David Avdecha Me'era Tatzmiach. Tu vas faire pousser ton Mashiach par la terre, par la Torah qui est liée à la terre. Nir'e Aïn ve'Aïn. Et à ce moment-là, tes yeux vont être liés aux yeux de l'Éternel. Tu verras les choses comme lui les voit. Aïn ve'Aïn. Tout le monde. Okay? Tout le monde. Parce qu'en réalité, on fait tous partie d'une seule et même forme humaine. Ça, on n'arrive pas à le comprendre parce qu'on a l'impression qu'on a des corps différents. Mais en réalité, on est des cellules d'un seul corps cosmique. Ki ayn be'ayn iru b'shuv Hashem Tzion. Mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous demande de voir, nous dit le verset dans Isaïe 52. Une seule chose. Ki ayn be'ayn, je viens de vous dire que votre œil sera rivé à l'œil de l'infini, au moins pour une seule chose. Je vous demande une seule chose, ne ratez pas ça, c'est une époque de l'histoire que si vous la ratez, vous n'allez rien comprendre à votre histoire. Beshuv Hashem Tzion, quand Dieu va ramener les exilés, les enfants d'Israël sur sa terre. Si tu rates cet épisode, t'es mort. Et je vais vous le prouver, dans la Amida, tous les jours, trois fois par jour, avec deux chazarot, ça veut dire cinq tfilot. Qu'est-ce que tu dis ? Vetechezena enenu beshuvcha letzion berachamim. Akadosh Baruch Hu, fasse en sorte que je fasse partie de ceux qui voient, qui verront quand ça va se passer, parce que beaucoup de gens ne verront rien et vont dire, c'est pas une geoula, ça c'est rien, c'est des gens qui arrivent, ils en ont marre, il y a un petit peu machin, madame Alimi, monsieur machin, il se passe des choses, donc les gens viennent. C'est pas aussi simple que ça, Rabbanan. Akadosh Baruch Hu est en train de faire venir ces exilés, ouvrez les yeux, et tout ceci pour qu'on rejoigne cette terre qui est la terre de la prophétie, pour justement commencer réellement, on n'a même pas commencé encore, à jouer notre rôle dans l'histoire humaine. Parce que quand cette prophétie va déferler sur nous, vous allez commencer à comprendre ce qu'Israël va apporter au monde. Pour l'instant, on est encore dans des petits degrés. Et déjà, c'est pas mal. On est en train d'apporter au monde une lumière extraordinaire, comme aucun peuple n'a fait. Alors imaginez-vous quand Be'ezrat Hashem, le peuple sera ici, réellement, et que toutes ces portes vont s'ouvrir. C'est ce que vous dites à Shir HaShirim, que les cheminées du ciel vont s'ouvrir lorsque Israël reviendra sur sa terre. Toda Rabba. La terre.